Cherchons, c'est l'émission de Joël. Bonjour les amis. Je vous souhaite une très bonne année 2012, pleine de projets, d'amour, de partage et surtout une très bonne santé. Les infos ne sont pas brillantes, mais je pense que l'on pourra toujours trouver des solutions localement pour vivre le mieux possible. Aujourd'hui, pas d'informations catastrophes, mais des conseils alimentaires d'une naturopathe, Aline, que j'ai interviewée. Bonjour Aline.
Bonjour.
Alors, tu es bientôt naturopathe, et c'est à ce titre que j'avais envie que tu me parles un peu de l'alimentation, c'est-à-dire comment tu vois l'alimentation pour toi en tant que naturopathe.
Alors, l'alimentation en tant que naturopathe. Tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas d'alimentation type au niveau de la naturopathie. Il y a plutôt des règles d'hygiène à avoir. Et de toute façon, la naturopathie, elle est faite spécifiquement pour l'individu qu'on va avoir en face de nous. C'est-à-dire qu'on va prendre la personne dans sa globalité, avec ses problèmes, avec son hygiène de vie, avec ce qu'elle a l'habitude de faire au jour le jour. Et par rapport à ça, on va amener une alimentation spécifique pour la personne. Voilà. Après, il y a plusieurs règles qu'on va essayer de mettre en place. Donc, tout d'abord, je pense qu'une des plus grandes règles à avoir, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Ça, c'est la première chose, parce qu'on peut très bien manger très équilibré une salade verte avec des bonnes huiles, avec des graines germées ou autres. Si on est en colère ou si on est dans une frustration ou si on n'est pas très bien dans sa tête à ce moment-là, cette salade, elle va pas du tout bien passer au niveau du corps, on va mal la digérer. Alors que si on est dans un repas convivial avec des amis et qu'on va manger peut-être quelque chose de très gras ou spécifique comme une choucroute ou arrosé de bière, ou de vin ou n'importe, mais que c'est fait dans le plaisir, la joie et la bonne humeur, et ben le corps va mieux digérer et mieux
assimiler
voilà tous ces nutriments. Voilà, donc ça c'est vraiment la première des bases à avoir. Ensuite la deuxième, ça va être plutôt la frugalité, c'est-à-dire on va prendre son assiette et on va essayer de enlever un quart du repas qu'on a préparé et d'essayer de manger plus sainement en prenant beaucoup plus de temps pour manger et en même temps diminuer les rations alimentaires. On va essayer de, par rapport à ça, de petit déjeuner comme un roi, on va dire, avec un bon petit déjeuner, éventuellement en amenant du fromage, en amenant des choses un peu plus grasses. Déjeuner au repas du midi comme un prince et dîner plutôt comme un pauvre. C'est vraiment ça l'idée en fait de la naturopathie.
Mais en fait c'est difficile ça dans une vie de travail pour pouvoir faire ce genre de repas.
Alors,
par exemple le midi, comment on fait quand on rentre pas?
Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que les gens n'ont pas forcément le temps le matin d'avaler quelque chose et de prendre le temps justement de prendre un bon petit déjeuner. Et le midi, c'est souvent sur le pouce. Et le soir, du coup, c'est des repas conviviales avec la famille qu'on retrouve. Et là, on a envie de faire des bons repas. Mais on essaie de s'adapter et de voir si on peut apporter des choses beaucoup plus complètes le midi ou voir préparer des choses la veille pour les emporter au travail, pour avoir un repas beaucoup plus équilibré, qui va tenir plus au corps et du coup on aura beaucoup moins faim le soir en rentrant, tout simplement. Et puis on va essayer aussi de mettre en place des petites collations et à 11h et à 17h en incluant à ce moment-là les fruits qui vont jamais être pris en fin de repas. Donc là c'est une question de digestion. Si on prend le fruit en fin de repas, le fruit cru en fin de repas, il va plutôt être digéré, soit si on le prend avant, il va être digéré assez rapidement en une demi-heure, mais si on le prend après, tous les autres aliments, que ce soit les protéines, les lipides ou les glucides lents, vont être assimilés en premier travaillé par l'estomac, et donc le fruit qu'on va manger en fin de repas, il va attendre son tour. Et le fait qu'il attende son tour, il va commencer à fermenter. Et s'il fermente, ensuite, ça va nous faire des ballonnements, plutôt au niveau du côlon droit, et des fermentations au niveau intestinal, et une digestion beaucoup plus lourde. C'est pour ça que les fruits, ce sera à 11h ou à 17h.
D'accord.
On peut éventuellement finir un repas par une compote de pommes sans sucre cuite. Voilà, ça va être bien assimilé. Il n'y aura pas de problème digestif par rapport à ça. Ou éventuellement finir avec de l'ananas ou de la papaye quand on a fait un repas très riche en viande. Parce que l'ananas et la papaye auront les enzymes spécifiques pour mieux digérer les plats fortement carnés.
D'accord.
Voilà.
Et oui, alors ce plaisir quand même, même si c'est avec plaisir et si effectivement c'est une personne qui a l'habitude de manger que des repas lourds, ça posera pas quand même un problème?
Alors, c'est sûr qu'il faut avoir ce plaisir-là, mais c'est aussi dans le plaisir de préparer son repas. Et dans la préparation du repas, on va bien entendu essayer d'amener des produits bio, de qualité, frais, de saison, pour avoir un meilleur apport de nutriments, d'enzymes et de vitamines. Et de ce fait-là, cette préparation-là fait qu'on va le préparer d'une façon plus...
Plus agréable.
Oui, plus... plus agréable, plus... voilà, avec de la décoration, avec des petites épices. On va essayer de se poser pour ce plat-là. Voilà. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. il faut éviter de boire pendant le repas. C'est-à-dire qu'on va boire avant le repas, un ou deux verres d'eau. Mais pendant le repas, on va essayer de ne pas boire. Pourquoi ? Parce que ça va diluer les sucs gastriques, diluer les enzymes et donc allonger encore le temps de digestion.
D'accord. Voilà. Donc le petit coup de rouge qu'on boit en même temps qu'on mange, c'est terminé.
Alors le rouge c'est bien, le rouge c'est la seule alcool qu'on va tolérer en naturopathique parce qu'il va contenir des antioxydants, du resveratrol et du coup ça va être bien et pour le cœur et pour le système veineux et les problèmes cardiovasculaires. Mais ce sera un verre de rouge avec plaisir. Voilà, et du bon vin rouge, sans sulfite, bio ou biodynamique si c'est possible. Voilà. On va, en naturopathie, on va essayer de diminuer l'apport carné en augmentant l'apport de protéines soit végétales, comme le tofu, le seitan.
Le tofu, vous voulez dire, tu veux dire le pâté de soja?
Voilà, le soja fermenté. Tout ça, et éventuellement aussi des œufs et des poissons qui vont amener des bons acides gras essentiels, bons pour la mémoire, pour le cœur, pour nos artères. Ou sinon, on va essayer de faire une association de céréales et de légumineuses. Donc, on va prendre exemple avec les civilisations, soit amérindiennes, soit même au niveau, par exemple, du Maroc où ils font du couscous avec beaucoup de couscous et un petit peu de pois chiches. Donc les couscous vont être les céréales, les pois chiches vont être les légumineuses. Que ce soit du côté de Madagascar avec les caries, ça va être beaucoup de riz et un petit peu de pois, lentilles, etc. Le dal aussi, pareil au niveau de l'Inde. Et voilà, dans toutes les civilisations, on va retrouver cette association. Et si on prend 3/4 de céréales et 1/4 de légumineuses dans le même repas, on a, dans ce cas-là, l'apport de protéines nécessaires pour qui remplace les protéines animales. Parce que les protéines, on en a besoin. C'est les protéines qui vont construire le corps, qui vont être là pour les réparations et pour donner aussi de la force.
Oui, mais en même temps, ce qu'on dit, c'est que dans la viande, eh bien, il y a du fer. Et donc, on peut être en manque de fer si on n'en mange jamais.
Alors, le fer, déjà, là, on part sur une autre problématique. Le fer, il est très présent, bien entendu, dans tout ce qui est viande rouge, le boudin ou autre, mais on va aussi beaucoup le retrouver dans tout ce qui est légumes verts, dans l'association céréales légumineuses, on va en retrouver aussi. On peut en trouver aussi dans la spiruline, on va en trouver dans les œufs. On peut avoir cette assimilation par ce genre de produit, sans forcément manger du boudin ou du foie. Voilà.
Alors, on parlait du plaisir, de manger. Et qu'est-ce que tu voulais dire plus particulièrement par rapport au plaisir, de se faire plaisir?
Eh ben, par rapport à ça, c'est vraiment de mettre une conscience positive dans la préparation de chaque repas. Et puis de manger en compagnie, mais que ce soit aussi en conscience, en prenant le temps d'apprécier chaque bouchée, de bien mastiquer, puisque la mastication est très importante pour avoir un effet de satiété, pour avoir aussi pour avoir un appel au niveau du cerveau, des enzymes spécifiques pour la digestion. Et si on le fait en déplaisir et avec une rapidité, on n'a pas le temps de voir qu'on a mangé, c'est là où peut arriver des pulsions, de la boulimie ou autre, où on se dit on a fini un repas, ben on a l'impression de ne pas avoir mangé et 2 heures après on va rechercher quelque chose dans le placard. En tout cas, le plaisir en naturopathie, c'est aussi de faire ses propres gâteaux, de faire ses propres produits, même que ce soit voilà, des préparations. Il faut réapprendre à cuisiner et c'est ça qui est important, avec majoritairement des légumes à tous les plats. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que bien sûr, on va avoir un large pourcentage de cru pour les personnes qui sont non coliteuses ou qui n'ont pas de problème digestif, mais on va mettre beaucoup plus de cru dans l'alimentation, en sachant que le cru, vous mangez des carottes crues en début de repas, vont apporter les enzymes spécifiques pour les carottes cuites que vous allez manger juste après. Donc c'est très bien d'apporter le même légume en cru en début de repas et en cuit au milieu du repas. On va avoir une digestion beaucoup plus facile.
Par exemple, du fenouil cru et ensuite du fenouil cuit.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Carotte crue, carotte cuite.
D'accord.
Voilà.
Et pour les enfants ?
Pour les enfants, ça va être la même chose. Ils vont être... Je pense que si les parents mangent assez équilibré à la maison, et qui font goûter assez tôt à leurs enfants, que ce soit des graines germées ou même des jus de légumes faits maison avec un extracteur ou de la spiruline mélangée avec leur jus ou un mélange de céréales légumineuses, je pense que les enfants devraient apprécier aussi. Voilà, il ne faut pas forcément faire des choses gratinées ou avec du fromage ou avec de la crème. On essaye de mettre des choses beaucoup plus naturelles ou moins grasses. Cuisiner à l'huile d'olive, par exemple. Mettre ces huiles végétales toujours à cru dans les crudités, c'est-à-dire ne jamais les chauffer, comme tout ce qui est huile de colza, huile de noix, huile de noisette. Ça, c'est aussi une base de la naturo. Il faut les mélanger à cru. C'est-à-dire que même sur un poisson ou sur des légumes vapeur, vous pouvez mettre de l'huile de noix, mais en fin de cuisson. Juste pour, il ne faut pas les faire cuire, sinon ce sera moins bon pour l'organisme. Et par rapport à ça, les huiles, il faudra aussi les conserver à l'abri de la lumière et au frigo, à part l'huile d'olive qui figera, bien entendu. Mais tout ce qui est oméga-3, oméga-6, vont être consommés à cru.
D'accord.
Voilà. Et pour revenir aux enfants, si on leur fait une bonne pâtisserie maison avec du sucre, du rapadura au lieu du sucre blanc, par exemple, raffiné, et qu'on leur met un petit peu de farine 85 et qui va y avoir beaucoup plus de fibres, de minéraux et de vitamines qu'une farine type 55 où il n'y aura rien dedans, avec... avec des bons fruits bio, et ben ils vont vraiment plus à aimer aussi ce genre de gâteau. Voilà.
D'accord. Bon, on va peut-être faire une petite pause, hein. Tu avais oublié plein de choses.
Oui, j'ai oublié plein de choses. Tout d'abord, je voulais redéfinir bien au niveau de la qualité. La qualité est vraiment importante en naturopathie. Tout d'abord, prendre des produits qui vont être biologiques. Pourquoi biologiques? Parce que quand on prend des produits qui ne sont pas biologiques, on va retrouver dessus des xénobiotiques qui vont être des pesticides, qui vont être des OGM ou des engrais ou de la pollution environnementale, etc., etc. Et donc qui vont être nocifs pour la santé. Donc le bio est très important par rapport à ça, et surtout qu'un produit bio va être beaucoup plus riche en flavonoïdes, en vitamines, en antioxydants et avec une teneur vitale beaucoup plus élevée.
Flavonoïdes, c'est quoi?
C'est des antioxydants. Ça va être... voilà. Et de ce fait-là, les prendre en frais. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, mais il faut que le produit soit un minimum de 3 jours entre la récolte et le fait de le retrouver dans l'assiette. Parce qu'au bout de 3 jours, il perd déjà la moitié de ses vitamines. Il est plus frais, il est plus vivant, donc il ne va plus faire du bien à notre corps.
C'est facile, ça, avec la vie moderne?
Alors, c'est facile... Pas tout à fait. Soit on a de la chance d'habiter dans un endroit magnifique comme les Cévennes et d'avoir son propre jardin et de pouvoir cultiver tout au long de l'année pour avoir des produits frais. Ou sinon, si on habite en ville, et ben essayer d'aller régulièrement chez son primeur et de pas faire les courses pour la semaine ou pour les 2 semaines qui arrivent, mais d'y aller plus régulièrement et de prendre des petites quantités et du coup de cuisiner de suite les aliments qu'on aura achetés. Et de ce fait-là, ils seront généralement frais chez son petit primeur.
Parce que c'est dangereux si on les garde une semaine?
C'est pas que c'est dangereux, mais la conservation, que ce soit dans le frigo déjà ça perd des vitamines, ça perd de sa vitalité de base. Il y a beaucoup moins d'énergie et donc ce sera dommage pour... Voilà, on les a achetés, ils étaient encore bien énergiques et au bout d'une semaine, ben voilà, ils seront un peu plus flétris, ils auront perdu leur vitalité. Voilà. Et par rapport à cette qualité aussi, il y a la qualité du raffinage, c'est-à-dire il faut vraiment faire attention en bio de prendre du non raffiné. Par exemple, commencer par des pâtes demi-complètes ou du riz demi-complet, voir après si les intestins le supportent du complet, parce que dans le complet ou dans le demi-complet, on va retrouver tout ce qui est fibres, on va retrouver les minéraux, les vitamines aussi, comme on disait tout à l'heure, mais aussi on va avoir un pouvoir de satiété beaucoup plus rapide avec du riz demi-complet qu'avec du riz blanc. Le riz blanc, il aura perdu toutes ces bonnes choses pour le corps.
Même bio.
Même bio, même s'ils sont moins raffinés, mais ils sont quand même moins intéressants. Par contre, si vous n'avez pas le choix et que vous ne pouvez pas acheter du bio, dans ces cas-là, vous prenez du riz blanc en supermarché ou autre. Et vous complétez par des apports de cru, de vivant ou de crudité pour avoir les fibres nécessaires, pour avoir les enzymes et les vitamines nécessaires. Je dis toujours à mes clients qu'il vaut mieux acheter une baguette bien blanche chez son boulanger quand on veut se faire plaisir et plutôt que d'acheter du pain complet chez un boulanger qui ne fait pas du bio. Voilà. Et de temps en temps, acheter quand on le peut du pain complet dans une boutique bio ou chez un boulanger qui fait du bio.
Mais bon, le problème, c'est que parfois, on ne supporte pas le pain complet ou on a des problèmes intestinaux.
C'est tout à fait ça, la naturopathie.
Ou la constipation, pour certains.
C'est tout à fait ça, c'est que par rapport à la personne qu'on va avoir en face de nous, par rapport aux problématiques qu'elle peut avoir au niveau digestif, on va individualiser et on va faire un plan d'hygiène vitale au niveau de l'alimentation beaucoup plus spécifique. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles en naturopathie au niveau de l'alimentation, mais c'est des règles de base à avoir et à adapter suivant la personne. si au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes qui ont des allergies alimentaires, que ce soit avec le gluten et la maladie cœliaque, avec la maladie de Crohn, avec des rectocolites hémorragiques ou tout simplement des allergies cutanées. De ce fait-là, on va vraiment individualiser leur régime alimentaire. Si les personnes sont colliteuses, par exemple, avec des intestins plutôt spasmés ou avec des gaz ou avec des ballonnements, on va éviter tout ce qui va être cru, tout ce qui va être fibreux, tout ce qui va être donc non raffiné. Et on va leur proposer plutôt, pour avoir un apport d'enzymes, des jus de légumes faits à l'extracteur où là il n'y aura pas de fibres et donc que ce sera très bien assimilé, très bien digéré par le corps. Et en même temps, ça va faire une bonne réparation de la muqueuse intestinale.
Oui, mais bon, se prendre que des jus de légumes, ça ne nourrit pas vraiment ça.
En entrée, pour avoir un apport de vitamines et d'enzymes, pour avoir une meilleure digestion par la suite. Mais après, ben, dans ce cas-là, s'il ne faut pas de fibres, on va préférer du riz blanc, on va préférer par exemple du poisson ou des protéines végétales ou des choses comme ça pour accompagner le repas. Donc ça va être plutôt pour le repas de midi, en associant toujours une crudité ou un jus de légumes en premier en entrée, plus après un plat assez équilibré avec une bonne dose de protéines, et ou sinon l'association céréales légumineuses, comme on avait dit tout à l'heure. Et puis finir, si on a envie d'un petit goût sucré, éventuellement avec une petite compote de pommes ou voilà, une légère compote de fruits, jamais de fruits frais, hein, on a dit. Et le soir, on va essayer de faire plutôt des monodiètes, alors peut-être pas tous les soirs de la semaine, mais essayer peut-être deux fois dans la semaine pour permettre de mettre le tube digestif au repos. Donc pour que cette énergie qui est normalement utilisée pour la digestion du repas du soir soit utilisée à d'autres fins, pour donner plus d'énergie, pour la défense immunitaire ou voilà. Et essayer un ou deux soirs par semaine de faire une petite monodiète. Alors qu'est-ce que la monodiète ? La monodiète, c'est de choisir un aliment et de le manger en belle quantité. Juste cet aliment, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple que des pommes. Et là, on va se faire une compote de pommes, on prend un bon bol de compote de pommes et on mange tranquillement, avec conscience, juste la compote de pommes. Le tube digestif, il va comprendre qu'il n'y a qu'un seul aliment, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour lui de le digérer. Et du coup, il va bien, très très bien digérer cette monodiète et l'énergie sera utilisée autrement. Vous allez mieux dormir, vous allez mieux vous réveiller le matin, être plus en forme au long de la journée d'après. Et c'est vraiment intéressant comme expérience à entreprendre. Alors vous pouvez faire ça avec la pomme, vous pouvez faire ça avec le riz, par exemple un bol de riz. Alors bien sûr, il faut pas mettre de la sauce tomate, il faut pas mettre du fromage râpé ou autre qu'on pourrait mettre.
Ketchup.
Ou du ketchup. Mais vous pouvez mettre un petit peu de... un petit peu de sauce soja éventuellement pour saler, voilà, juste pour dire, voilà. Ou vous pouvez faire une bonne soupe, par exemple, une soupe maison, vous mangez que la soupe maison, sans rajouter de fromage, sans rajouter de crème fraîche, sans rajouter de pain ou de dessert, voilà, juste ça. Et là, en ce moment, quand il fait un peu frais, ben c'est vrai que c'est agréable de prendre un bon bol de soupe faite maison. Et vous verrez que vous allez passer une meilleure nuit et que vous allez avoir une meilleure énergie le lendemain. Et en même temps, ça permet de drainer aussi, d'éliminer un petit peu quand on a fait des gros repas les jours d'avant et de se sentir en meilleure forme.
Donc ça, c'est l'idéal. Et puis, donc, moi, je fais la candide. Donc, il y a la personne qui travaille en ville, personne pressée, qui n'a absolument pas le temps de faire son repas, comme on a dit au début, son repas de midi, qui n'a pas forcément le temps de faire son petit marché, et qui va au supermarché acheter de la nourriture industrielle, y compris pour les enfants, toutes les petites, les gâteaux, voilà, puisque maintenant c'est comme ça que les enfants sont nourris. Alors on fait comment là ? Par exemple, pour ce genre de personnes qui finalement, elles sont très nombreuses.
Oui, c'est vrai. Alors, bah, dans ces cas-là, c'est sûr que quand il y a des vies de famille aussi avec des enfants où il faut leur amener des gâteaux, si on a la possibilité et un petit peu le temps le soir, bah, cuisiner pour le lendemain ou le week-end, essayer de se faire des petits plats, de mettre au frigo et de réchauffer après ou même se faire des salades composées pour le midi, par exemple, et essayer dans ce cas-là de cuisiner le week-end. De prendre un petit peu de temps le samedi pour aller au marché et pourquoi pas faire des plats pour toute la semaine. Voilà. Après, au niveau des pour les enfants, ben, ce qui peut être intéressant, c'est de... Après, c'est vrai que quand on est stressé, on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais il vaut mieux prendre 5 minutes avec un enfant pour faire un gâteau maison que d'acheter un paquet de gâteaux avec... plein de choses pas forcément très saines à l'intérieur et qui va être mangé trop rapidement par l'enfant et où il va pas avoir d'effet de satiété parce qu'il aura pas elle aura ouais, il aura pas les minéraux nécessaires et les fibres nécessaires pour arriver à satiété.
Alors moi j'aimerais quand même que tu me parles un petit peu de la partie financière parce que finalement il y a quand même pas mal de personnes qui disent oui, mais moi je peux pas acheter de bio, ça coûte trop cher. Et bon, et c'est vrai que bon, on voit parfois des promos avec des prix de pommes de terre ou de viande. Enfin, bon, donc en fait, comment tu te débrouilles toi en tant que naturopathe par rapport à tout ça et justement aux problèmes financiers ?
Alors déjà, je pense que le bio, ça ne s'achète pas forcément en supermarché. Il faut aller, si on a l'occasion d'avoir un magasin bio à côté de chez soi, dans les magasins bio. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont avoir une meilleure marge de vente par rapport à la grande surface qui, elle, va proposer et du conventionnel en non bio et du bio. Et de ce fait-là, vous pouvez aussi trouver dans ces magasins spécialisés du vrac, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour les légumineuses, que ce soit pour la farine, pour le sucre, pour plein de choses comme ça, et où les prix sont vraiment intéressants. Ensuite, il faut changer ses habitudes. C'est-à-dire que la personne qui va avoir l'habitude d'aller au supermarché, par exemple, acheter sa salade déjà toute préparée, elle va la payer le même prix que si on achète une salade non préparée en bio. Donc là, pour moi, ok, c'est un gain de temps, mais c'est pas forcément plus économique. Pareil pour tout ce qui va être crudité, déjà râpé, alors que si vous achetez un kilo de carottes en bio, moi je les trouve à 1 euro, à environ 1 euro le kilo de carottes. Elles auront beaucoup plus de goût, beaucoup plus de vitamines, comme on disait tout à l'heure. Et en plus, en bio, vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Donc vous avez un gain aussi de matières premières. Et ça, c'est intéressant. Donc, ok, il faut reprendre le temps de les râper, mais ça ne coûte pas plus cher. Ensuite, il faut réapprendre, comme on disait, à cuisiner. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'acheter des paquets de gâteaux qui vont coûter plus cher, ok, parce qu'il y a les emballages, parce qu'il y a la fabrication, etc. Mais si vous achetez un kilo de farine, 6 œufs bio qui ne coûtent pas plus cher en bio que voilà qu'en conventionnel, plus du chocolat ou des légumes en bio et que vous allez faire vos propres préparations, vos propres gâteaux, vos propres quiches, pizzas ou etc. Vous allez mettre beaucoup plus de minéraux, donc vous allez en manger moins. Donc du coup, quelque part, au final, vous allez faire des économies. Ou que ça va pas être beaucoup plus cher que si vous achetez en conventionnel. Parce que le conventionnel, vous allez acheter un kilo de pâtes, ça va pas vous rassasier. Ça va vous faire pour 5 personnes, alors qu'un kilo de pâtes en bio, et ben, ça va vous faire pour 8 ou 9 personnes. Voilà. Soit du demi-complet, plus de fibres.
D'accord. Donc il faut cuisiner.
Il faut cuisiner. Il faut cuisiner. Après, je suis d'accord que ce qui coûte cher en bio, c'est quand la personne elle a pas forcément le temps de prendre des choses en bio, qu'elle mange pas forcément équilibré au travail, ça va être tout ce qui est alicaments. Les alicaments, ça va être la gelée royale, la propolis, le pollen, la levure de bière. Tous ces alicaments-là vont être un petit peu plus coûteux, mais ils vont être intéressants pour le bon fonctionnement du corps et donner de l'énergie, avoir une bonne immunité et du coup de moins être malade, donc de moins avoir de frais de médecin, etc., etc.
Mais si on se soigne bien, est-ce qu'on a besoin de tous ces alicaments et est-ce qu'on a besoin de compléments finalement si on se nourrit bien?
Alors au jour d'aujourd'hui, on est tous en carence. Que ce soit déjà le stress, que pratiquement la majorité des personnes en souffrent aujourd'hui. Déjà, juste le stress nous fait perdre la moitié des vitamines qu'on peut ingérer. De ce fait-là, on a quand même besoin de magnésium, on a besoin de supplémenter en antioxydants. On a tous des petits problèmes de que ce soit cardiovasculaire ou que ce soit excès de poids ou bronchite ou des petites choses comme ça qui reviennent assez régulièrement. Si on amène en plus pour le corps des alicaments qui vont aider au système immunitaire à être en meilleure forme et en meilleure santé pour bien approcher l'hiver, du coup on va se sentir mieux et on sera moins malade, tout simplement.
J'ai vu qu'il y a pas mal de naturopathes qui parlent de jeûne aussi. Donc c'est pas des monodiètes là, ce sont des jeûnes. Pourquoi faire des jeûnes?
Alors déjà, tout le monde ne peut pas faire de jeûne. Les jeûnes sont plutôt indiqués à des personnes qui sont en bonne santé, qui ne sont pas dénutries, qui n'ont pas de problèmes spécifiques, qui n'ont pas de grosses médications aussi, par exemple trop de diabète ou maladies cardiovasculaires ou des problèmes de tension ou autres. Donc c'est vraiment il faut adapter ces jeûnes à certains types de personnes. Il faut avoir la vitalité nécessaire parce que pendant un jeûne on va demander au corps beaucoup plus de vitalité et de ce fait-là tout le monde ne peut pas faire de jeûne. Voilà. Alors le jeûne en différence avec la monodiète, c'est qu'on arrête totalement d'apporter des nutriments au corps pour mettre toute cette énergie digestive, pour mettre cette énergie à d'autres effets, à d'autres bienfaits, donc pour éliminer déjà des surcharges, pour éliminer plusieurs autres choses comme en fait le corps, comment est-ce que se passe le jeûne? Le corps, il a besoin d'énergie, il a besoin de glucose pour fonctionner. Le glucose, il va le trouver en priorité dans l'alimentation. S'il n'y a pas d'aliment qui est ingéré, du coup le corps, lui, va aller chercher dans les protéines, va aller chercher dans les lipides qui sont stockés par le corps. Donc en premier lieu, le corps, il est intelligent, il va aller chercher tout ce qui est substance morbide, comme on dit, c'est-à-dire l'excès de graisse, l'excès de d'os, par exemple, si on a des petites tumeurs ou des tuméfactions ou des petites excroissances de peau ou d'os ou choses comme ça, ben le corps va aller chercher là-dedans. Il va assainir tout ça, il va assainir le sang, il va assainir donc du coup les humeurs de l'organisme et il va purifier le corps. Donc là, c'est intéressant, mais il faut être en bonne santé. Et tout le monde ne peut pas faire de jeûne.
D'accord. Voilà, bon. Ça, c'est bien de le préciser tout de même. Hein. Bien, mais vous, je sais pas, tu vois d'autres choses à me dire qui te semblent importantes?
Moi, je pense qu'il faut justement changer ses habitudes. Voilà, un coup de torchon, c'est-à-dire que on va prendre la liste de ce qu'on achète d'habitude et on va essayer de changer. On achète de la farine blanche, ben on va essayer de la farine demi-complète. bio de préférence. On va acheter du sucre blanc, pof, on va changer, on va prendre du rapadura ou du sucre complet ou du muscovado ou autre ou du sirop d'agave. On va essayer de diminuer l'apport de sucre aussi. On va augmenter sa part de légumes, essayer de diminuer tout ce qui est produit déjà préfabriqué et essayer de cuisiner. Si on est addict par exemple au café ou à la cigarette ou au chocolat par exemple, essayez dans un premier temps, pour pas être catégorique, de tout diviser par deux. Voilà, on se dit pof, au lieu d'en prendre 10, j'en prends plus que 5. Et puis au fur et à mesure des jours, et ben on va sentir que le corps il va mieux, il répond mieux à certaines choses et voilà. Et puis augmenter sa part de cru, de vivant, avec les graines germées, avec la spiruline, avec les jus de légumes, etc. Voilà, tout simplement. D'accord. Et prendre du plaisir.
Voilà, et prendre du plaisir. Alors bon, ça va dépendre des gens, hein, parce qu'il y en a qui vont entendre ça, qui vont dire oh, ben, le plaisir que dans les légumes et les graines germées. C'est à prendre, en fait, c'est ça, aussi à avoir du plaisir, même en mangeant une salade.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis l'accompagner avec des petites graines de tournesol, avec des raisins secs, avec de la couleur, avec des petites fleurs. Voilà, il faut avoir de l'imagination et faire quelque chose de beau dans l'assiette. Et puis déjà se régaler avec les yeux et ensuite avec le goût.
Ah, c'est quand même beaucoup mieux que toute cette malbouffe, hein.
Eh oui.
Bien, ben, je te remercie.
Merci, Julie.
Voilà, coup de torchon se termine. Et vous avez dû reconnaître le chant de Sushila Raman. J'ai eu envie de faire un clin d'œil à Aline, qui va réécouter cette émission en Inde. Radioescapades.org, c'est bien pour le monde entier. La prochaine émission, retour sur les pesticides, les doses journalières, les limites de résidus, et vous verrez, c'est très édifiant. On se quitte avec une deuxième chanson de Sushila Raman, au vendredi 20 janvier, et gardez la forme.
Bhavayano, Guru Mandiram, Tanaya Sada. ಷಣ್ಮುಗ ಪ್ರಿಯ ಷಡ್ ಅಕ್ಷರ ಪವನಾ.